Radio La Fin
du monde. Radio La Fin du monde. Nous sommes jeudi 13 octobre 2022. Nous sommes légèrement en retard suite à un problème technique indépendant de notre volonté. Ce soir, nous sommes actuellement directement en duplex. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu commencer notre émission beaucoup plus tôt. Nous sommes directement à Gignac-la-Nerthe. Gignac-la-Nerthe, donc dans les studios locaux de la société de production Disquette Prog de Gignac-la-Nerthe. Nous avons été invités pour assister à une séance assez particulière de brainstorming, de brain rédaction.
Absolument, oui.
Nous allons, nous allons bientôt nous effacer pour laisser la parole à alors non pas nos invités, puisque c'est nous qui sommes invités ce soir très exceptionnellement, mais justement, nous allons laisser la place à nos hôtes qui sont les producteurs, scénaristes, réalisateurs d'un futur film à venir, qui, me dit-on, s'appelle « À la rencontre du chemin des mousquets ». Pour présenter le topo, cette société de production Disquette Prog a réalisé.
C'est fait connaître pour pas mal de choses.
C'est déjà fait connaître, par exemple, pour Coucho à la rôtisserie, pour leur premier long métrage Opération Nabab, et ainsi que Trois pieds dans la chaussure du commissaire Sanchez, donc, qui sont sortis directement en vidéo à la demande sur la plateforme de streaming locale, qui ont eu un certain succès. Société de production qui est aussi connue pour ses projets qui se voulaient tout de suite très ambitieux, et notamment deux tétralogies qui se voulaient l'une successeuse de l'autre, qui sont d'une Les Annales de l'Espace-Temps et Mercury n'a pas pied dans tes affaires, les deux grandes tétralogies qui donc n'auront pas vu le jour faute de combattants. Mario Abdullah Lévy, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Abdelah Lévy, vous êtes producteur, scénariste, metteur en scène, donc vous avez, c'est vous qui avez initié ce projet donc de à la rencontre du chemin des mosquées.
Tout à fait, voilà. C'est moi qui suis aussi dans la dynamique du de la d'espèce de d'ambition comme ça qui est l'identité aujourd'hui de Disquette Prog. Et merci à vous de nous avoir proposé cette rencontre finalement, puisque aujourd'hui, dans le cadre de ce brainstorming, on va pouvoir être écouté, entendu et peut-être, pourquoi pas faire participer le public.
Effectivement, voilà. Donc l'idée, c'est que les gens qui nous écoutent découvrent la fabrique du film, la fabrique d'un film. Voilà, comment ça se passe, comment tous ces gens, parce qu'il y a différents rôles, différentes personnes qui sont impliquées dans le sujet. On a avec nous aussi Riviera Dorado.
Bonsoir.
Riviera Dorado, vous êtes aussi producteur, hein, vous avez un des membres fondateurs de Disquette Prog.
Vous êtes le bras droit de Mario ?
Tout à fait, oui. Et nous sommes le bras droit depuis maintenant une dizaine d'années.
Nous travaillons ensemble depuis une dizaine d'années.
Oui.
Voilà, donc une relation qui est, ma foi, fructueuse, comme vous avez pu le voir, avec tous les films que nous avons présentés.
Oui, Opération Nabab a été sélectionné à la Biennale de Venise en 2016.
Oui, tout à fait. Une grande surprise.
C'était un des faits remarquables qui nous avait finalement encouragé à continuer la voie de l'ambition.
C'est ce qui vous a permis de gagner une certaine notoriété et de pouvoir poursuivre du coup par la suite.
On a eu quelques petits bonheurs. Je dirais qu'on a eu les droits pour exploiter la chaussure du commissaire Sanchez. Bon, ben voilà, il y a des choses qui se décident un petit peu aussi comme ça au bon vouloir du destin.
Ouais.
Mais on a pu toujours maintenir notre ambition à flot, j'ai envie de dire.
Oui, vous avez de merveilleux locaux dans lesquels vous nous accueillez et voilà, des espaces.
Ils participent également
space.
À cette ambition.
Oui, magnifique.
Donc là, on est le soir. La plupart des employés, j'imagine, ne sont pas là. Mais une partie de l'équipe va nous rejoindre pour la suite.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour le brainstorming, il y avait plein de gens qui étaient invités. Et puis finalement, on est resté sur notre tandem habituel en se disant qu'il s'agissait d'une première étape. Rien n'empêche effectivement vos auditeurs, d'envoyer un petit peu leurs suggestions, aussi de participer au débat. Oui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a donc besoin de... aujourd'hui intégrer, si vous voulez.
Vous faites appel à des contractuels par moment ?
Oui, on a des contractuels, on a des indépendants aussi qui se prêtent au jeu.
Vous avez une équipe quand même qui est dispersée un petit peu dans le monde et qui parfois est capable de venir vous appuyer sur pas mal de choses. Hein,
oui, alors toutes les bonnes volontés sont évidemment prises... je veux dire avec sérieux. Hein.
Oui, bien sûr, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre, ça c'est voilà. Une certitude. Hein.
Oui, il y a une certitude comme ça qui est dans l'écoute et qui fait aussi que nos projets ont pu trouver un écho, c'est parce qu'on a embarqué tout avec nous.
C'est ça. Hein. On a des structures économiques aussi qui dépendent
pas mal...
naturellement de certaines externalisations nécessaires. Voilà, après... bien sûr, ça varie en fonction, bien sûr, des films que nous faisons. Hein, mais voilà, nous avons une grande flexibilité et c'est ce mode de fonctionnement qui nous permet vraiment, jour le jour, mois après mois, année après année, décennie après décennie maintenant, fonctionner et pouvoir sortir des films de qualité.
On sent des liens forts entre vous aussi.
J'ajouterais que les échecs que nous avons pu rencontrer ne sont que partie remise. On ne baisse pas les bras. Aussi,
quel échec vous a marqué particulièrement
embûche,
Le chemin sans embûche, par exemple, c'est un film qui n'a jamais pu voir le jour, mais pour des raisons qui sont tout à fait placées dans un contexte social et historique contemporain, faute de quoi, voilà, on vit dans un système capitaliste et puis les choses qui arrivent, c'est des choses comme ça qui arrivent, mais ça pourrait arriver à n'importe qui, puis voilà, un jour on se retrouve avec un frigo vide et on accepte, on se dit c'est comme ça.
Et on s'en remet, il ne faut pas baisser les bras et faire preuve
de résilience.
Non, on
baisse pas les bras, un coup dans l'eau, tant pis, on y repart.
Et aujourd'hui, on est là pour ça, c'est ça. Et
on est là pour ça.
Vous avez c'est-à-dire une ambition nouvelle.
Voilà, ce projet, ce nouveau projet doit être très très bien pensé en amont. Il me semble que c'est la clé du succès. Voilà, on a déjà un petit peu une idée des réalisateurs, de l'équipe de réalisation et des acteurs et des actrices qu'on a envie de faire rencontrer notre film, mais on a besoin de peaufiner notre
alors,
histoire.
Alors justement, pour peaufiner votre histoire et notamment pour faire avancer les choses, vous êtes aussi spécialiste d'une technique qui n'est pas beaucoup utilisée, parce que vous avez besoin d'être en live et de vous voir tout de suite, mais ce que vous aimez faire aussi, c'est quand vous voulez représenter des personnages ou des lieux, c'est d'envoyer sur place quelqu'un en live, et qui participe lui aussi, mais sur place. Voilà, il est sur place. Est-ce qu'il va lui donner des inspirations différentes, quoi ?
Alors en fait, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et à la fois qui capte l'air du temps. Oui. En fait, on l'a embauché pour ça parce qu'il capte l'air du temps. Oui. Il est dans l'air du temps. Voilà, il est totalement intégré à l'air du temps. Et quand je dis l'air du temps, c'est l'air.
Ouais, c'est vraiment l'air au sens comme... la surface.
Oui.
Et à la fois, bon, celle qui sous-tend le volume.
Voilà. Et ce qui nous permet aujourd'hui de respirer, ce mélange d'oxygène et de.
Voilà. D'idées.
Et d'idées. Et de comme ça qui sont dans le vent.
Oui, c'est l'air du temps. Alors, on sent bien dans la construction de. Donc, Coup de chaud à la rôtisserie, c'était vraiment pour vous le premier film. C'était vraiment un imaginarium, un exploratorium de cette idée du volume. On sent bien la chaleur monte. C'est un peu l'idée.
Et si vous voulez, sans qu'on l'ait vraiment préparé, on est arrivé aussi à constituer par là même un thésaurus, si vous voulez, de notre vocabulaire cinématographique. Pour les projets à venir, quoi. On a installé là un vrai style.
Il y a tout, tout est pensé, comprendre notre cinéma.
Il y a une touche dans la photographie, dans l'agencement, des couleurs,
le scénario,
le
tout
son aussi, dans la prise de son, il y a quelque chose de fort.
La production, la post-production, tout est absolument
rien n'est laissé au hasard, quoi.
Millimétré.
Et justement, dans Coup de chaud à la rôtisserie, qui est quand même un drame familial assez prenant, où il y a des contre-coups qui nous prennent quand on est face à l'écran. Et qui voilà, moi, en tout cas, lorsque je l'ai vu au cinéma, c'est un film qui m'a ému. J'ai énormément aimé les références à l'entropie si subtile que vous avez réalisée. Moi, ça m'a rappelé ma grand-mère, voilà, tout simplement.
Alors oui, ça peut rappeler la grand-mère de plein de gens. C'est aussi.
Vous avez mis du vôtre aussi dans ce film, de vos rapports avec votre famille.
Oui. C'est vrai que avant qu'on produise ce film, ce qui a été surtout le moteur pour moi, le déclencheur, c'est la mort de ma grand-mère.
Oui, voilà, tragique.
Donna Silvia. Qui malheureusement voilà, nous a quitté dans un terrible accident de tricycle. Et suite à ça, j'ai beaucoup pensé à la vie, à qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'il faut faire. À l'époque, je projetais plutôt de me tourner vers l'industrie du textile. Et là, voilà, j'ai tout envoyé balancer un soir, dans un bar, sur un coup de tête, tout à fait.
C'était quand ? C'était en 93 ?
93, oui, tout à fait. 93, j'étais dans un bar près de Huesca, voilà, près de Toledo del Sol, dans le sud de l'Espagne. Et... voilà, là vraiment, les barrières ont lâché, j'ai tout envoyé baldinguer.
C'était au restaurant, la table,
Il y avait des poissons dans un aquarium, peut-être qu'il n'était plus dans l'eau.
Ah, vous étiez vraiment en pleine crise existentielle, il y avait un besoin de rupture.
Oui, tout à fait. Ouais. Je n'arrivais pas à accepter cette mort. Et
mais concrètement, c'est rapidement devenu. Pardon, excuse-moi de t'interrompre. Riviera. C'est juste que c'est devenu un prétexte pour une histoire universelle, quelque chose qui nous dépasse et qui touche
ça,
tout le monde.
Bien sûr.
Oui, pour répondre à la question, il y a quelque chose de nous dans ces films.
Mais vous avez transcendé la singularité de vos propres relations pour toucher un universalisme rare, rare sur les grands écrans.
Voilà, une forme de manière de proposer une marche suivante voilà, sur cet escalier.
Vous étiez à deux doigts d'être nominé au Festival de Cannes.
Ça s'est joué de peu.
Bon, on a perdu contre Jaroslav Drankitzinos, qui a fait un magnifique film aussi. Bon, il faut savoir aussi.
Il faut savoir être bon joueur.
On aime le cinéma à tous. À un moment donné, il faut reconnaître
la passion
aussi,
qui prime.
Il a déjà fait d'autres
films. La compétition.
Bon, voilà.
Vous arrivez à essayer de vous extraire quand même cette compétition qui est faite entre chaque boîte de production, pour le box-office et tout. Vous misez tout sur la qualité, quoi.
Oui, mais écoutez, on joue avec aussi. Je crois que cette approche justement de qualité, d'exigence et d'ambition, c'est peut-être ce qui peut nous permettre de concurrencer sérieusement les autres, quoi.
Et là, c'est
pour ça que la compétition, on ne fait pas fi de cette compétition, de cette situation. On est au contraire dans le... Voilà, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je dirais, participons, envoyons du projet, allons-y sur le scénario, allons-y sur des projets ambitieux, des objectifs exigeants. Voilà. Ouais,
la seule compétition que vous menez, c'est contre vous-même, quoi. C'est pour vous
dépasser. Oui, tout à fait. Et c'est, ma foi, bien suffisant.
Ouais. Et là, vous avez ce nouveau projet extrêmement ambitieux. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être... voilà, vous n'allez pas... On parlait de ce film qui est en genèse, je crois.
Il est en gestation, donc c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Qu'est-ce qui est acté aujourd'hui à la base de ce brainstorming, finalement?
Vous nous avez transmis quelques informations assez claires, mais vous nous avez dit qu'il n'était pas encore gravé dans le marbre, pour ainsi dire. C'était à la rencontre du chemin des mousquets.
C'est ça.
Nous, ça nous a de suite fait tilt, les mousquets, les mousquetaires, les armes.
C'est un des titres, oui.
Voilà, donc on a déjà... C'est un des titres, c'est pas encore acté.
Non, c'est pas forcément encore acté.
Ça nous donne quand même des indices un petit peu sur la période, quoi. Ça va pas être contemporain, j'imagine.
Oui, ça permet de poser un cadre.
Un cadre.
Même dans la création, on veut être libre le plus possible. Il faut quand même savoir poser limite un cadre pour ne pas trop déborder.
Ouais, pour pas trop...
Surtout, voilà, nous avons plein d'inspiration. Beaucoup d'inspiration.
Ne nous laissons pas déborder par la créativité débordante.
Attention.
Vous avez voyagé récemment peut-être pour avoir cette stimulation, cette inspiration?
Oui, un petit tour de l'Amérique du Sud. J'y suis allé voir un côté de ma famille. Ce qu'on appelle le triangle d'or. Voilà.
D'accord. Qu'est-ce que c'est le triangle d'or?
Le triangle d'or, c'est une région absolument magnifique qu'on va retrouver justement pas trop loin de là où nous souhaitons faire le film. J'y suis allé un peu en repérage.
Ouais.
Il y avait
la location, si vous voulez, la destination elle-même est source d'inspiration.
Tout à fait.
Ce cas-là.
C'est un peu comme notre ami que nous envoyons qui était une éponge à air.
Ouais.
De reproduire un petit peu ce schéma-là.
Ah, vous avez quelqu'un sur place là, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Oui, l'éponge à air du temps.
Okay. Tout à fait, oui. Il a un frère. Ah. Une capacité assez rare.
Ouais.
Ils sont jumeaux. On peut l'utiliser.
D'accord, c'est.
Temps. Franchement, c'est pas mal.
Et vous travaillez avec eux régulièrement, quoi.
Ah, oui. Finalement, l'air du temps, c'est pas si facile que ça à capter. Des fois, on arrive avec 6 mois de retard. Ils sont indépendants. Ils sont très, très documentés. Ils sont absolument vifs, dynamiques, souples et ponctuels et disponibles. Enfin, vraiment tout. Pour plaire, en tout cas tout pour alimenter des projets ambitieux tels que nous avons décidé.
C'est un peu un consulting externe, quoi.
Oui, ça reste des consultants externes.
Ce sont de grands professionnels, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Hein, nous travaillons avec les meilleurs.
Les meilleurs.
Et voilà.
Vous avez collaboré.
Nous avons une grande joie dans notre travail.
Les annales de l'espace-temps.
Oui, on les a. Oui. Il me semble qu'on les a.
Il y en a un des deux.
Oui. Oui.
Qui est allé sur la station spatiale internationale, je
crois.
Juste
pour l'occasion, rapporter des... Bon, je dirais que c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue, parce que...
Non, ça fait un petit trou dans les budgets.
En termes de budget, ça a été délicat, c'est moins qu'on puisse dire.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre acteur phare, Proctus Easywin Augustus?
Oui, écoutez, on aimerait beaucoup...
Qui a joué quand même dans pas mal de vos films, pas forcément en rôle principal, c'est là où l'utilisation est judicieuse
de
son talent
remarquer.
De comédien. Vous l'exploitez au maximum.
Oui, alors c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il participe dans ce nouveau film.
Oui.
On avait vraiment apprécié sa prestation dans le coup de chaud à la rôtisserie où il interprétait effectivement, comme vous le dites, un second rôle. Donc on avait le voisin boucher qu'on suspecte un petit peu au début du film d'être
c'est une sorte de MacGuffin.
Oui,
c'est un personnage MacGuffin.
Et il se trouve que finalement ça n'est pas le cas, mais je ne veux pas spoiler non plus.
Mais il a toujours été force de proposition.
Toujours, oui.
Malgré son second rôle. Et il avait quelques idées. Il y en a une ou deux, qui ont fini dans le montage.
Et finalement,
final,
un jeu d'acteur très marqué. Un jeu d'acteur très marqué.
Oui, aussi, oui. Une forte identité. Oui.
Alors, il travaille souvent en binôme. Vous avez aussi des actrices qui parfois
Alors, on aimerait beaucoup avoir sur ce film une actrice qui a déjà participé.
Au niveau du casting, vous avez quoi ? Vous bossez avec des agences de recrutement
Alors, on pourrait faire appel. Effectivement, on pourrait
toujours
faire
des personnages qui impactent fort l'image dans vos films.
On cherche des éléments extraordinaires.
Vraiment,
il y a des figures, on a des jeux d'acteurs très très impressionnants. Et on pourrait avoir des agences comme ça qui nous aident à recruter des actrices. Bon, là, il se trouve qu'on avait l'opportunité de s'occulter un petit peu de... Bon,
c'est nous. Oui, hein, de s'épargner, on va dire,
voilà,
les dépenses.
Au niveau du budget, ça nous arrangeait bien. Mmh. Disons qu'il y avait ma fille, voilà, elle a 12 ans, et puis elle aurait beaucoup aimé participer à un de nos films. Il se trouve qu'on lui a fait faire des essais quand même. Hein,
oui. Bah, professionnel.
Voilà, professionnel jusqu'au bout. Et son jeu d'acteur, son jeu d'actrice, devrais-je dire, nous a convaincus.
Oui, je pense même qu'elle est HPI. Ça, c'est autre chose.
Et voilà.
Au potentiel donc, intellectuel, ça.
Oui, tout à fait.
La capacité à se fondre dans la foule.
Oui, une plasticité cervicale. Ouais. C'est assez impressionnante, oui. Alors, capacité d'adaptation, de mimétisme et de caméléonisme.
Oui, c'est un peu la particularité de tous les enfants, non?
Alors, disons que ma fille
oui, mais elle a l'HPI.
A convaincu aussi, si vous voulez, une série de producteurs. Donc, on a essayé de se dire, non, bon, voilà, c'est à nous de prendre l'affaire en main.
Oui, puis bon, il faut aussi lancer, servir de tremplin. Bon, nous, ça y est, là, on a les
ailes. Place au jeu.
On a les ailes déployées, nous. Donc, voilà, et aujourd'hui, bon, il m'oublie. Aujourd'hui, passer à la nouvelle génération, faire vivre ce que nous avons vécu sur ces 10 dernières années. Voilà.
Elle a droit, elle aussi. Voilà.
Oui, bon, c'est un petit peu du népotisme, on va pas non, vous vouloir.
Non, c'est-à-dire
votre fille.
Non,
voilà.
C'est vrai
pas l'âge.
Oui, non, c'est vrai qu'elle a baigné un petit peu
dans tout ça,
milieu
oui.
Depuis le début.
Oui, on l'aperçoit déjà dans Trois pieds dans la chaussure du commissaire Sanchez, où elle apparaît à l'écran.
Oui, bon, c'est un petit rôle de figurant, mais c'était une manière de la tester aussi. Ouais.
On la voit également aussi dans Opération Nabab, mais elle avait 3 mois, du coup, dans un landau. C'est...
Oui, c'est sa première cascade.
Elle a fait sa première scène de cascade.
C'est vrai, ouais. c'est vrai. Bon, le landau a survécu, je dois dire, et puis... Bon,
très cher la location, ça nous coûte très cher.
Non, mais je crois que même ma fille, à l'époque, elle n'avait que 8 mois, mais elle garde un bon souvenir de ce séjour à l'hôpital avec ses deux bras cassés et une des deux jambes dans le plâtre. Je sais plus laquelle. En tout cas, elle garde un bon souvenir. Elle se dit que voilà, elle aussi.
Elle
n'a pas
eu peur de remonter sur les planches.
Non,
quoi,
non,
de
non.
Le
voilà.
Pied devant la caméra.
Je crois même que ça l'a endurci.
Ça l'a endurci.
C'est ça qui l'a motivé finalement. Très tôt, elle nous a dit j'aimerais faire du cinéma.
Est-ce que vous allez lui réserver un rôle dans ce prochain film?
C'est l'idée.
Un rôle central?
Oui, je crois bien. Peut-être même. Le rôle principal, hein, c'est possible. En tout cas, c'est en discussion.
Le rôle principal du film sera un rôle féminin.
Oui.
Ça fait partie du cadre qu'on met en place.
Oui.
Tout à fait. Oui. Le héros doit être féminin. Oui. Bon. Après, on ne va pas vous mentir non plus. Étant la fille et donc de Mario, forcément, elle est mineure, donc tout l'argent va revenir à ses parents. Donc,
ouais.
C'est encore une manière
au niveau du budget,
on
s'y retrouve ça nous a
permis. C'est un investissement en quelque sorte
mais c'est pour le mettre en valeur justement
ça nous permet de garder si vous voulez aussi le moyen de nos ambitions
et qu'en pense la maman
Je crois qu'elle est d'accord.
Vous êtes divorcé, je crois.
Oui, la dernière fois que je lui en ai parlé, elle m'a dit oui, c'est bon maintenant. Et donc, j'ai supposé que c'était bon.
Vous avez la garde alternée avec votre fille?
Alors, mais sur un rythme qui... Bon, enfin, bon, on va pas rentrer dans les détails non plus, mais... Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et en tout cas, elle est d'accord pour... que notre Fifi arrive enfin à l'écran. On dévoilera peut-être son nom de scène.
Un petit peu plus tard.
Mais elle n'était pas d'accord pour que vous alliez voir ailleurs.
De toute façon, il y avait un certain nombre de conditions.
Il y a eu un conflit d'intérêts sur certaines...
Pas un conflit d'intérêts, mais quelques conditions qui ont émergé de... y compris de la famille.
Certaines voisines, notamment, que nous avons interviewées sous couvert d'anonymat.
Ah.
et qui nous a révélé qu'effectivement, il y avait pas mal de passages à un moment, je crois, non ?
Écoutez, ça fait partie aussi du métier de recevoir du monde.
Il y a beaucoup de corps de métier.
Oui, faites les castings en recevant à la maison, c'est ça ?
Là où on peut, encore une fois,
de budget,
question de budget, oui. Vous savez ce que c'est, louer une salle à Paris, dans un lieu bien placé, bien parce sûr. Que sinon personne vient.
Vous préférez les années en province.
Non, puis on propose un lieu cosy, si vous voulez, met un petit peu les acteurs en...
Je reprends de ce que vous aviez dit au moment du jugement, en face du notaire et du juge, évidemment, c'est que vous faisiez des séances, effectivement, de coaching intensif.
Oui, bien sûr.
Et ça vous aidait beaucoup, à... Voilà, à vous décharger de tout ce que vous aviez, de coucher sur le papier, de coucher sur vraiment la
c'est
toile.
Ça, c'est ça, c'est parti finalement d'un exercice qui aurait pu être thérapeutique.
Pour un travail, quoi. Chose que vous avez au fond de vous.
C'est professionnel quand même, oui. Même si je reconnais qu'il y a une dimension thérapeutique.
Non, mais j'entends, mais c'est intéressant parce que vous êtes allé jusqu'à même passer en frais réels le restaurant, le cinéma, l'ensemble des choses que vous faisiez à ce moment-là.
Écoutez, c'est comme ça
dans ces séances de coaching.
Tout m'invite, tout s'équilibre à la fin. Le plus important, c'est qu'on se mette tous ensemble, qu'on discute et qu'on trouve des accroches l'un l'autre pour pouvoir produire de beaux films.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'il en est sorti ? Parce que vous avez quand même passé 3 ans et demi à développer ce projet. Allez-y, dites-moi que les 3 choses que vous avez apprises.
Voilà, c'est que ça demande du temps, voilà, premièrement.
Oui.
Deuxièmement, c'est qu'on a quand même le titre du film et on connaît qui va interpréter le rôle. Le rôle titre, voilà. Donc on espère bien sûr, mais en tout cas tout ça est quand même bien avancé au niveau de l'avancée de ce projet.
Vous avez une ossature dans votre tête, quoi, c'est ça. Là, maintenant, il s'agit de la coucher sur papier, quoi.
Oui, alors qu'est-ce que bon.
Enfin, plus exactement sur ordinateur.
Non, mais oui.
Si je vois que vous avez, oui.
Il y a.
Ça dépend.
Voilà.
Des fois, louer un sténographe.
Vous avez un sténographe.
Oui, des fois dans les processus créatifs, on se sent plus attiré par cette méthode-là. Et puis bon, voilà, on peut louer. Voilà, on a un gros budget sténographe.
Ce soir, il sera là ?
Peut-être, ça dépend. Il doit finir un scénario pour une série uruguayenne.
D'accord.
On est sur tous les marchés.
D'accord. Oui, vous avez vraiment vous avez une empreinte rhizomique sur l'ensemble de la planète. Hein.
On essaye, de rester quand même un petit peu dans nos sabots d'entrepreneurs responsables. Et on...
Et vous payez bien, alors ?
C'est l'idée. Après, on peut toujours faire mieux. On a toujours des déçus.
Là, vous êtes dans une redistribution...
En tout cas...
Vous n'êtes pas une scope.
Non, mais on essaye, si vous voulez, de rester entre...
Transparent et...
D'une part.
Redistributif.
Transparent et redistributif, mais aussi de trouver un bon équilibre, tout simplement, entre les rentrées et les sorties. Quoi.
C'est ça.
Hein, on a rencontré un comptable.
Quel est le budget, alors, de ce film ?
Alors, pour ce budget, pour ce film-là... Là, je pense...
Difficile de dire.
Alors, c'est un peu tôt.
Mais, voilà, c'est un peu tôt. Tout l'a dit.
Mais
environ, allez. À quelques milliers d'euros près.
Aujourd'hui, donc il nous manque encore des devis sur la plateforme Décor.
Lesquels ? Quels devis vous manquez ?
Là, on est sur un moment donné du film, on est sur un décor, si vous voulez, où on a des grands murs ainsi qu'une rangée d'arbres. Bon, et puis cette rangée d'arbres, on aurait pu la trouver dans la nature, mais il s'avère que c'est pas si simple.
Ouais.
Il en faut faut une rangée d'arbres avec un mur. Et alors, pas, si vous voulez, c'est un mur de briques rouge, mais il faut qu'il donne l'idée que l'action se passe quelque part dans la France du 18e siècle.
D'accord.
Tout en étant sur un décor tropical indonésien.
Ce qui déjà donne un petit peu des indications en termes de vêtements.
D'espace-temps, quoi, de vêtements.
Entre chaque main.
De la culture locale. On est quand même au XVIIIe siècle, sous le règne d'un empire, d'un empereur. On est passé par une république qui a fait du mouvement aussi. C'est la guerre un peu partout en Europe.
Ouais, absolument.
Et va bientôt naître le temps des grandes inventions ou des avant-gardes. Donc, 1800 et quelques, ça nous a paru une super idée.
Voilà. C'est une bonne époque.
Alors, on en chie un peu au niveau des costumes, comme j'essayais de le sous-entendre.
Ouais.
Mais on a quand même de bonnes raisons de croire qu'on, qu'on va on a avec rassembler nous là, un peu les...
Il vient d'arriver à la, dans la mer
de Banda.
De Banda. Est-ce qu'il est avec nous ce soir, Stanislas Rivonchel? Bonsoir, vous êtes en direct. Est-ce que ça marche?
Stanislas, bonsoir.
Alors Stanislas Rivonchel fait partie...
Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Stanislas.
Oui, parlez-nous
bonsoir
un petit
tous.
Peu.
Je suis très content d'être dans cette émission pour pouvoir donner mon témoignage sur la question.
Alors qu'est-ce que vous voyez actuellement? Là, vous êtes sur place, ça y est.
Vous êtes en mer de Banda.
Oui.
Oui Stanislas, vous êtes à la mer de Banda et vous êtes en train de capter l'air du temps. Est-ce que vous pouvez... s'il vous plaît, nous en dire un petit peu plus sur, finalement, cette époque-là, du fin du 19e siècle, dans votre région.
Alors, à cette époque-là, les problèmes étaient très rébarbatifs. Hein. On a eu tout un tas de gens qui se sont plaints de divers problèmes qui n'ont absolument rien à voir avec ceux de notre époque. Alors ça, c'est quand même très curieux parce que on avait à cette époque-là d'énormes problèmes de fermes. Alors, je ne sais pas si vous voyez les fermes.
Alors, décrivez-nous pour les gens
des
qui nous écoutent.
Des fermes d'époque.
Voilà, il faut vraiment pour que les gens nous écoutent. Ils ne sont pas forcément spécialistes. Il faut vraiment, vraiment mâcher le truc, quoi, vraiment le digérer.
Alors, on avait un débarras à l'époque qui servait à entreposer les outils de jardinage. Ah. Et apposé à ce déstockage, on avait une espèce de vergerie, mais qui ne servait pas pour les vergers, mais qui servait pour les animaux.
Mais ça a une forme particulière, animaux, ça a une substance, quelque chose vraiment qui permet de le caractériser, même de loin, comme ça?
Oui, les animaux étaient au nombre de 3, oui.
Systématiquement, quoi.
Systématiquement. On achetait toujours les animaux par 3, et ce qui a fait un espèce de bouchage dans les transports à l'époque, d'animaux. Donc, énormément de problèmes de transport d'animaux.
Ils ne pouvaient pas se déplacer par eux-mêmes, ces animaux.
À l'époque, l'animal le plus domestique qui a eu la palme d'or du domesticisme à l'époque, c'était le poulet. C'était un animal à l'époque qui était très, très aimable. Contendant. C'était un animal contendant qui aimait beaucoup très sociable. Très sociable et qui avait son mot à dire, si vous voulez, à l'époque.
Oui, puis qui pouvait se reproduire facilement.
Et tout le monde l'écoutait. Quoi.
Oui, je pense qu'il pouvait se reproduire facilement aussi. Et donc, on constituait comme ça un espèce de petit cheptel de poulet.
Un cheptel
de poulet. Et ça nous permettait aussi, à la fois de subvenir à des besoins nutritifs, mais peut-être aussi à un commerce.
On appelait ça un cheptopoul. À l'époque.
Oui.
Cheptopoul, ça s'appelait.
Ah oui, c'est vraiment typique du 19e siècle.
Alors dites-nous comment c'était organisé et qu'est-ce qui a été le moment déclencheur du changement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus du tout pareil qu'avant?
Les poules n'arrivaient pas à l'époque. Les poules n'arrivaient pas. Il y avait d'énormes problèmes de transport de poules
c'était bloqué,
à travers toute la région.
Mort.
Il fallait que
rapidement
les gens
une pénurie,
prennent le bus, par exemple, avec 2 ou 3 poules avec eux pour pouvoir... désengorger un petit peu, détuber le marché du
transport. Les stratégies à l'époque, quelles étaient les stratégies à l'époque pour arriver à contourner le problème qui se présentait?
Alors on a essayé de transformer les poules en poudre pendant des années, ce qui n'a marché que il y a quelques années.
C'est ça, à la fin du 20e siècle.
Complètement, oui, même le début du 21e siècle. Quoi.
C'est bien possible, quasiment, à peu de choses près. Et puis il y a eu d'autres moyens quand même. Il y a eu d'autres moyens de transport.
Les amphibiens aussi ont eu ce problème.
Et c'est ce qui a un peu aidé finalement à débloquer le problème du transport des poulets.
Alors le transport de poulets, ça a été une épine dans le pied du maire de l'époque, durant toute sa congrégation.
Maire de Banda.
Et ça a été vraiment... moi, Stanislas, je sais que mes arrière-grands-parents ont été ils ont été martyrisés.
Oui, remontez aux sources de la chose.
Alors, Stanislas,
il n'y avait plus de poules. Il y avait 3 animaux à la maison et les poules n'étaient toujours pas arrivées. Mon arrière-grand-père envoyait des courriers, on ne lui répondait pas, il essayait de revenir sur ses dépositions, il allait directement chez le bourgmestre, qui lui n'en avait cure, puisqu'il attendait déjà, lui, des poules. Donc ils ont créé un laboratoire à la sortie du village.
Ah.
Et dans ce laboratoire, ils ont commencé à faire des expériences avec des poules qui n'arrivaient pas. Donc il y a eu déjà 6 mois, à peu près 6 mois, 1 an d'expérience sans poules, sur les poules.
C'était l'expérience du manque.
Voilà, c'était un petit peu à l'impro, on fait des expériences sur des choses dont on ne les a pas sous la main, mais on va, comment dire, c'était...
On théorise dessus.
Expérience suggérée, quoi.
Oui, et, c'était même pas de l'anticipation, parce qu'on était déjà dans le concret, mais c'était un concret qui finalement se basait sur...
Très protocolaire.
Alors, plutôt protocolaire.
Bah, sur le futur, c'était un concret basé sur le futur, c'est-à-dire qu'on faisait des expériences en se disant, espérons que les poules arriveront bientôt. Pour pouvoir continuer les expériences, pour qu'il y ait plus de poules qui arrivent.
C'est
par
ça, je crois qu'il y avait des plannings. Alors, qui ne pouvaient pas être respectés, des objectifs un peu compliqués aussi.
Toute une forme de... Les expériences, ça consistait en fait à se mettre autour d'une table et envoyer du lourd au niveau brainstorming, idée pour minimiser les transports de poules de l'époque.
Ah oui, oui, oui. Et ça a donné des premiers résultats au XXe siècle seulement.
Non. Ce qui a donné des premiers résultats au XXe siècle, c'est la transformation en poudre de
poule
pour...
D'accord. Il existait quand même quelques solutions.
On est allé même beaucoup plus loin. Agressivifier des poules, ça balançait au-dessus de l'océan... sur des requins, enfin...
Ah oui, oui, pour les former un petit peu à la défense, à l'autodéfense. C'est ça ?
À la dure. Leur donner l'agressivité qui leur manque, parce que c'est ce qui a manqué durant toute l'histoire de la planète.
Et une chance insolente de pouvoir se défendre face à des plus gros et des plus agressifs que la poule, c'est ça ?
Oui, mais pas forcément en se frittant, hein. Essentiellement lors de grands débats
D'accord.
entre la place de la poule dans le camion, quoi, ou pas, quoi.
On dit aussi qu'un simple échange de regards avait pu donner beaucoup d'autorité au poulet. C'est vrai ?
Oui. Curieusement, oui. C'est marrant que vous le souligniez.
Oui, parce que...
Vous avez des invités, là, vous êtes
alors,
plusieurs.
Stanislas, je suis ravi...
Spécialiste des poules, ici, ou pas ?
Alors, est-ce qu'on a des spécialistes des poules ? Non, mais on peut faire un appel, je crois. Il y a forcément chez nos auditeurs...
Absolument. Donc, si vous souhaitez
on
participer, compétences. Intervenir et surtout réagir à ce qui se dit, si vous êtes d'accord, mais surtout si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se dit, vous pouvez effectivement nous téléphoner au 04 91 08 28 10... nous nous ferons un plaisir de vous mettre en ligne avec nos invités afin de pouvoir débattre de tout ce sujet qui est absolument passionnant. Mais alors justement, comment est-ce que vous arrivez à concilier, vous, cette compréhension très locale du poulet avec une économie de marché libérale qui se veut universalisée, englobante et qui finalement rentre en contradiction avec ce qui se passe là-bas, quoi, mais vachement, quoi.
Eh bien, c'est peut-être cette contradiction-là qui est le matériau nécessaire à la construction de notre film, finalement. Hein, est-ce que, finalement...
Il faut un réservoir dans lequel piocher.
Oui.
Mais alors... c'est du coup ce terreau, hein, pour votre film, là, qui est... cette logistique, ces problèmes de logistique, de transport de poules au 18e, dans la mer de Banda... et tous les enjeux socio-économiques qui en découlent.
Culturels.
Voilà, donc il y a pas mal de problématiques qui peuvent se développer à partir de ce postulat.
Tout est possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, hein, quelque chose qu'on a envie de creuser, de développer.
On veut aussi se laisser des possibilités, tout en étant toujours cadré, je le rappelle.
Alors, excusez-moi, mais j'ai ici la patronne du laboratoire.
On a un petit peu d'écho chez vous.
Vous êtes dans la grotte Cosquer ?
Eh non, je crois qu'il est en mer de Banda.
Il est en mer de Banda.
Dans le laboratoire.
Vous venez de rentrer dans la... Ok.
Oui, bonjour.
Oui, allô, bonsoir. Donc vous êtes en direct sur Radio Galère 88.4. Donc vous avez vraiment développé cette architectonique de la compréhension même de l'élevage et de la transmission de ce dont on parle, effectivement, et qui conduit, vous, en tant que personne, à devenir le centre de toutes les attentions actuellement. On ne vous entend pas bien. On vous a un petit peu perdu ici actuellement. Vous êtes en mer de Banda.
On a une localisation GPS près de l'île de Pulomwetar.
Il va essayer le Takewoki.
C'est au nord de Timor-Leste. Il est à exactement. Ouais, je vois ça sur l'échelle là.
Est-ce que vous nous entendez? Ouais.
Sa montre intelligente indique qu'il est au large de Waziri, à exactement 7000 nautiques.
Ok, est-ce que voilà. Ça indique, je ne sais pas moi, qu'il y a du Wi-Fi là-bas?
Écoutez, en tout cas, le signal est toujours bon, à ce que je crois.
Ah.
Ouais, il n'est pas seul dans la région.
Parce que Stanislas, c'est important finalement dans la conception et dans la finalisation de notre scénario, je crois.
Ouais, les deux jumeaux que nous évoquions.
Il est bien en baie de Waziri, je confirme ça.
Il est là où nous lui avons demandé d'être. Jusque-là, il n'y a pas d'anicroche
sur
sa situation.
Il a des contacts, apparemment.
Un satellite ou une éruption solaire, qu'est-ce que vous en savez? Pas non plus des régions.
Ils sont pas.
Elon Musk n'est pas encore arrivé.
On va voir comment ça se règle, ce problème.
Ça va arriver.
Comment vous avez financé, vous, ce projet? Donc vous avez envoyé là-bas en mer de Banda dans une.
On avait des fonds propres.
Oui. Non, mais justement, parmi ces fonds propres, je crois que vous avez donc effectivement. Vous avez toujours un roulement de crédit que vous contractez à la suite des bénéfices que vous avez fait sur Trois pieds dans la chaussure du commissaire Sanchez.
Il y a une partie des bénéfices qui sert effectivement au fonctionnement.
Moi, j'aimerais bien savoir, je ne sais pas si vous m'entendez.
Ah, vous êtes de retour, oui, oui.
Est-ce qu'on pourrait savoir, c'est Stanislas, est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu les besoins de ce crédit? Pourquoi a-t-il été fait? D'où?
Bah, il sert à financer si
votre
vous
salaire, Stanislas, déjà.
Oui, vos déplacements jusqu'en mer de Banda.
Mais si on n'y croit pas, enfin moi j'y crois pas. Hein, je pense qu'il s'agit de malversations politico-financières. Et je le vois très bien sur mon compte. Hein, je me reçois.
Alors, attendez, on a un petit peu de.
Sur mon compte.
Ça ne saurait tarder. Je pense qu'il y a un décalage horaire qui est le même pour les banques, pour tout le monde, quoi. Donc on va bien trouver une solution, Stanislas. Mais vous savez, comme nous, que vous êtes un élément indispensable à la gestation de ce prochain film. Stanislas, vous êtes en train de capter l'air du temps en mer de Banda. Et oui, mais c'est le cas d'un peu tout le monde. C'est un peu le cas de tout le monde, Stanislas.
Alors, rassurez-nous quand même, vous n'êtes pas dans une situation périlleuse. Parce que votre montre GPS.
Dans un resto discount.
Oui.
Du 60.
Mais alors.
60 oui. À peu près. Tout le repas. Et il faut bosser. Ça commence à 5 heures, quoi.
Et qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça vous a appris concrètement, tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous qui êtes sur place.
Coucher les patates, couper les carottes, évincer les poivrons. Voilà, quoi.
Et ça stimule votre créativité un petit peu? Ça fait parler quoi vis-à-vis des gens?
Mais non, je suis en cuisine, quoi. Je suis en cuisine, quoi. Je fais la plonge. J'aimerais bien m'occuper de mes histoires de transport de poules avec les moyens conséquents. Mais apparemment, tout le monde s'en...
Non, mais justement, vous, est-ce que vous n'êtes pas en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous refuser
à
une dimension qui s'offre à vous par l'intermédiaire à la fois de la sérendipité, du hasard un petit peu, des choses et tout simplement de votre présence sur place?
Non, je passe à côté d'une période très importante de ma vie. J'ai toujours voulu construire une ferme. C'est impossible.
Oui, mais il faut travailler pour ça. Ça se mérite quand même.
On attendait les virements, enfin, je ne sais pas, les crédits, les histoires. Alors, le patron, c'est quoi ce crédit? Moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce que je vais recevoir mes trucs, quoi.
Ah, ben, c'est en cours. Je viens de vérifier justement sur le banque, la banque officielle de Disquette Prog, l'opération est en cours. Hein. Là, je pense que à l'heure qu'il est
en plus,
ici en Europe, il y a pas de problème. Hein. Vous savez,
de poivron ou quoi que ce soit que je suis en train de couper.
Stanislas, vous savez que vous avez nos limites, hein, mais
tout
quand même.
Pour le client, quoi. Tout est pour le client, quoi. Tout est pour le client, quoi. Tout est pour
oui,
le
mais attendez.
Client,
ici, on essaye de résoudre ce problème. Là, je vois que ça avance pas mal, quand même. On,
oui,
a, on a des informations qui viennent directement du directeur général de Disquette Prog.
Et puis, on va pouvoir passer peut-être aux choses concrètes. Ouais. Je pense que les choses avancent, je suis d'accord.
Il faut que vous envoyiez vos résultats, vous, de votre côté. C'est le deal, un peu.
Mais j'ai envoyé mon RIB...
Non, en dehors du paiement, on attendait quand même un petit peu vos commentaires. Hein, on attendait 3 pages de PDF de type benchmark sur l'ère du temps sur ces 3 dernières années. Alors, bon, peut-être qu'il y a de la rétention d'informations.
Mais...
Ah, est-ce que vous ne pouvez pas un peu nous teaser les principaux éléments là, de votre analyse ?
Alors, je vais vous faire un teaser, je vais vous faire un résumé court.
Voilà, un petit truc, mise en bouche, sur ces 3 années passées dans ce resto-là.
Alors, c'est parti, hein, je commence à lire, j'ai le dossier sous les yeux. Voilà, alors ça servira à qui de droit ?
Très bien.
Hein, monsieur le patron, sur le nommé.
Vous avez un peu d'écho, hein, je ne sais pas, mais il faut peut-être... si vous écoutez en même temps, vous éloignez un peu.
Je suis pas assez éloigné comme ça.
Bon, on va dire que c'est pas mal.
On merde de banda, oui, donc c'est pas mal qu'on puisse vous entendre.
Bah écoutez, je ne sais pas trop comment faire. Je ne me rappelle plus d'où vient ma voix et d'où arrivent les vôtres. Donc je commence. 6h du matin. Je reçois un coup de téléphone. C'est le patron du restaurant. Alors, je lis, hein, excusez-moi, j'ai fait quelques fautes.
Vous lisez ou vous improvisez, là ? Parce que là, on dirait que ça vient au fil de l'eau, là.
C'est ce que j'ai écrit, ok ? C'est un résumé de ce que j'ai écrit durant ces années.
Ah bon, alors, allez-y, on va voir ce que ça donne.
Alors, je reprends. 6h du matin, je me réveille à la sonnerie de mon téléphone qui m'informe que c'est le patron du restaurant qui m'appelle pour mon premier jour de travail. J'étais engagé le jour d'avant parce que j'étais dans la rue et que j'essayais de trouver un truc à bouffer quand ce patron de restaurant a bien voulu me donner les invendus de corbeilles de pain. Hein, je précise, pas le pain, les invendus de corbeilles de pain.
D'accord, d'accord.
Les invendus de corbeilles.
C'était un bon début.
Ces corbeilles, je les ai apporté tout de suite à la fontaine qu'il y avait sur la place, donc à côté, et je les ai lavés à grandes eaux. À grandes eaux. À grandes, grandes eaux. J'ai passé une bonne partie de la soirée à laver ces corbeilles et je les lui ai ramenées impressionnamment nickel, quoi. C'était quelque chose d'incroyable, quoi. Hein, un truc de la corbeille neuve.
Ouais, vous l'avez transcendé, quoi.
Comme neuf. Pareil. Voilà, pas de différence, quoi. Ce brave homme m'a dit « Viens demain ». Je suis allé me coucher.
Oui.
Et le lendemain, donc à 6h, il m'appelle en me disant « Mais quoi, tu es en retard, je t'avais dit de venir à 5h15, on t'attend tous ». Vous imaginez ma surprise. J'enfile mon pantalon, un t-shirt, je me brosse les dents, je vais sous la douche, je bois un café. Rapidement, je
sous
me
la
fais
douche.
Des tartines avec un petit peu de confiture dessus. Ensuite, je remarque que mes chaussures ne sont pas appropriées à un travail continu dans un restaurant. Je enlève mon pantalon, je me change les chaussures et je m'aperçois que j'ai taché mon pantalon en enlevant mes chaussures. Et donc, je mets un short.
Donc ça, c'est l'essentiel de ce que vous faites sur le terrain, c'est ça, quoi ?
C'est ça. Voilà.
Vous prenez le café, vous tartinez le short.
Ça vous donne envie de
parce que
un livre.
Je vois que ça fait beaucoup réagir Mario Abdoulalevi, votre patron, parce que lui, il fait les comptes actuellement et il voit que vous êtes payé. Finalement,
Non, mais vous savez, Stanislas, que vous comptez beaucoup pour nous et que vous avez nos limites dans vos recherches.
On compte beaucoup pour vous en frais.
Oui, écoutez, on peut voir ça à un autre moment, puisqu'on est actuellement en phase de conception, si vous voulez bien.
On peut voir ça d'un autre point de vue aussi.
Non, mais, oui, non, mais parce que là, votre histoire, elle ne fait pas du tout avancer notre histoire.
Si une fois les gens étaient honnêtes et se disaient les choses telles qu'elles sont, oui, je t'ai arnaqué de 200 000 balles, ne t'inquiète pas.
Alors, voilà. Stanislas,
vous avez l'air en colère.
On y est tous dedans.
Balles, alors au moins, est-ce que je pourrais avoir raison, un minimum. Si j'ai pas les 200 000 balles, est-ce que je peux avoir raison? Merci.
Il ne manque pas de persuasion. Hein.
Oui, mais.
Pardon?
Non, tu ne manques pas de persuasion, mon cher Stanislas, c'est ce que je disais. C'est pour ça aussi qu'on t'embauche.
Bon, avec
Riviera. Tu nous coûtes quelque chose, avec mais tu nous en apportes énormément.
Avec Riviera, on est d'accord. On peut te faire une avance sur le. Pas le film sur lequel on est en train de travailler ensemble, mais sur le prochain, celui d'après.
Mais ça fait 2 ans que tu me parles de ça. J'en peux plus.
Non, mais quand je parle d'une avance, c'est une avance confortable.
Arrête.
Substantielle.
Ah, il faut donner un chiffre là. Il faut quantifier.
Non, je crois qu'il faut qu'on passe au concret.
Et me dire, je t'ai arnaqué et je continuerai à t'arnaquer parce que c'est plus sympa.
Non, c'est pas que c'est plus sympa. Il s'agit pas de t'arnaquer d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on est dans l'idée de plutôt rester honnête et puis dans notre bon droit. Je pense que tu fais partie aujourd'hui d'une équipe.
Il faut être honnête. Hein.
Il faut être honnête.
Ah oui,
complètement.
Très important.
Ce sont des valeurs morales que vous avez acquises une fois là-bas ou que vous aviez déjà à l'origine.
Mais non, chaque personne à cette table dit une chose honnête. Allez, faites-moi un tour de table de quelque chose qui est vraiment honnête. Allez-y. L'honnêteté.
Non, vous d'abord.
Ben, moi je l'ai dit.
Ah, ça y est.
Ça ne me dérange pas.
C'est ça que vous voulez dire, c'est que ça vous dérange pas, quoi.
Ouais, honnêtement, ça me dérange pas.
Non.
Honnêtement, je peux vous le dire.
Bon. Non, mais Riviera Dorado, vous voulez dire un truc.
Mais écoutez, pour être honnête.
Pour rendre le monde un peu plus honnête, quoi, merde!
Ah mais là, on vous suit bien, mais c'est juste que là, Riviera Dorado, il sait pas, là, il a
l'avance
substantielle,
pour être honnête, oui, ça c'est largement faisable. Hein.
Bon. Et c'est honnête, c'est plus qu'honnête.
Il faut le planifier, hein, je vais être honnête, hein, c'est quelque chose à mettre en place. Et après, bon, mais là, pour les 200 000 balles, tu sais que, voilà, on avance aussi un petit peu à visage pas découvert, au contraire, cagoulé. On est sur quelque chose de très gros, on ne prend pas forcément trop de risques, voilà, on fait de la retenue d'informations. Voilà, les virements qu'on fait d'habitude, on ne veut pas te les faire parce que voilà, maintenant, les autres, ils savent qu'on vous utilise, ils savent qu'on fait appel à vos services et c'est ça qui donne la qualité de nos films. Donc, on essaye maintenant de cacher le fait qu'on vous emploie. Donc, on ne peut pas te faire un virement sur ta banque à Jakarta. C'est pas possible.
C'est ça votre truc honnête que vous vouliez dire, quoi.
Oui, oui.
Stanislas, je vais être honnête avec vous. Je dirais que les 200 000, on ne les a pas. Alors, comme on est content de travailler avec vous et que vous adorez travailler avec nous et qu'on vous propose une avance, non pas sur ce film-là, mais sur le film suivant.
Le prochain.
Au geste.
Il n'est pas encore écrit.
Mais qu'on va écrire ensemble. C'est là où il faut que tu vois l'intérêt, Stanislas.
Si on n'était pas à discuter de ça, on écrirait déjà le film d'après.
On pourrait même écrire. Écoutez, vous savez quoi? On va écrire 2 films.
En même temps.
Pourquoi pas 3?
Parce qu'on n'aura pas forcément le budget. On sait qu'aussi, à la fin de chaque film.
On est avec les poulets. Et oui, tout ce qui passe par 3.
Parce que Disquette Prog n'a pas des fonds illimités.
Non, mais les poulets étaient eux aussi par 3. Et vous avez constaté que les résultats n'étaient pas là.
Tous les résultats, Stanislas, sur les poulets.
Il n'y a que les couilles qui ne sont pas par 3, quoi.
Alors, ça, c'est rare, mais oui. C'est vrai.
Oui.
Ah, c'est honnête.
Pour être honnête, je dirais que oui.
Okay. Bon, les trous du cul non plus, sont pas 3.
Non, rare ou plus rare.
Ça s'appelle les pieds nippés.
Oui. Ah, Stanislas, vous avez retrouvé le sourire. Alors, vous qui captez l'air du temps, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, on est de retour de notre 19e siècle, on a la température est, je crois, très très prononcée. D'accord ?
Elle est réelle, elle est surtout réelle.
Voilà, elle est surtout réelle, peut-être même palpable. Et donc, le poulet, à ce moment-là, donc, il y a sa vie sociale. Hein, on est en plein la révolution des cheptopoules. Le laboratoire commence à faire des expériences. Et là, donc pour qu'on se mette un petit peu dans la peau de notre personnage principal, hein, qui va être interprété par ma fille, je ne sais pas s'il faut le rappeler. Et les poules
aussi.
Et les poules, elle va aussi interpréter quelques poules. Bon, il faut que je négocie encore quelques choses. Enfin bon, voilà, le contrat est en cours.
Excusez-moi, mais elle a la peau pour.
Elle a peau, oui, une chair de poule. Elle a une petite
chair
de poule.
Ça fait des économies de costumes, hein, de maquillage.
Alors, ça rentre en compte. Hein. Je crois qu'au niveau budget, on
en
a.
Oui.
C'est pas négligeable.
Non.
Non, les costumes, voilà. Surtout voilà, ceux du 19e. Bon.
Donc, alors, qui va s'occuper des effets spéciaux de ces trois films-là ?
Alors, Stanislas.
On a pas l'histoire, mais peut-être qu'on a les effets spéciaux.
On a des effets spéciaux. Je crois qu'il y a les époux Schoenberg qui sont sur le coup. Ils nous ont donné un accord de principe et. On attend un fax d'un jour à l'autre. Voilà. Si je n'ai pas.
Ils ont surtout dit qu'ils allaient nous concocter un truc, mais c'est tout, quoi. Il y a juste un mail avec on va vous concocter.
Oui, c'est parce que c'est comme ça qui fonctionne. Hein. C'est les époux Schoenberg.
Oui. Ouais. Mais eux non plus, je les ai vus au téléphone. On a mangé ensemble un pot-au-feu la semaine dernière. Voilà, ils sont venus manger à la maison. Ils n'ont pas été payés non plus.
Alors, et pour ça, écoute. On peut encore s'arranger. Ce que je te propose, c'est qu'on commence.
Sous le coup d'un scandale en ce moment, là, on les a.
Non, mais plus on parle d'argent, moins on travaille.
On a une visite impromptue, Stanislas. On essaye.
Désolé,
sténographe qui s'installe et qui a décidé de prendre quelques notes. Mais c'est très bien que vous soyez. Stanislas,
je suis vraiment désolé de mon retard.
On profite
que reçu votre message.
Communication avec la mère de Banda.
On va pas s'amuser à. Qu'est-ce que vous faites là?
Et aujourd'hui,
non, écartez-vous, ça c'est
à environ 4 euros la semaine pour des communications en libre antenne à partir de 23h.
Excusez-moi.
C'est de la zébodiche.
Alors, on est. Oui, on a un peu occupé ton bureau.
Oui, je vois ça.
Mais c'est pas grave, c'est génial que tu sois là. On était en train de concocter le brainstorming, si tu veux, du prochain.
Alors, je sais pas, il n'y a plus de batterie dans mon système d'appel. Peut-être qu'il faut le rebrancher.
Non, écoutez, on va faire court, puisque peut-être que la communication avec la mère de Banda nous coûte un certain prix. On est en ligne, en direct.
Vous envoyez la facture, on passe par l'antenne.
Vous enverrez la facture.
Comme c'était agréé, bien sûr.
Ok, donc moi là, ok, très bien.
Alors,
je vois qu'il y a déjà quelques notes qui ont été données.
Oui, on a essayé de faire ça.
Ne parasitez pas l'émission, s'il vous plaît. Là, nous sommes toujours en live au studio Disquette Prog. Ouais. Donc, nous sommes
en live,
en train d'observer
en
pleine procession, en plein processus créatif. Une équipe de production de cinéma. Vous êtes sur Radio Galère en live.
Non.
C'est...
On est en train d'essayer de voir quel film on fait parce que je vous explique, hein, c'est Stanislas, je suis un des piliers de
l'organisation. Salut Stanislas.
Il
est où?
On essaie de savoir qu'est-ce qu'on va faire comme histoire dans les effets spéciaux.
Donc ce qui se passe est un archétype de ce qui se passe d'habitude dans n'importe quel processus créatif artistique du cinéma. C'est vraiment, c'est la norme.
C'est ça. Bon, Stanislas, je crois qu'on peut d'ores et déjà annoncer qu'il va y avoir une explosion vers la fin du film. Okay. Et c'est possible que cette explosion arrive après une course-poursuite. Alors c'est en discussion, mais...
J'aimerais quand même mettre une petite précision quant à cette scène d'explosion. Elle va être réalisée avec un explosif très particulier. Hein. C'est un explosif qu'on récupère dans la forêt de Banda et on la mixe avec du cyanure de potassium et de l'hydrochlorure de soufre. Alors, ça donne un mélange détonnant qui fait des explosions
spectaculaires.
La chaleur à 2000 degrés, 2000 degrés sur un rayon de 4 km. Et qui ont une incidence visuelle telle qu'il n'est pas besoin de la filmer.
Ah, elle fait partie intégrante.
C'est sidérant, quoi.
Voilà.
Vous voyez pourquoi est-ce qu'on engage Stanislas ? C'est pour nous trouver des petites pépites comme ça. À la base, on avait demandé à essayer de produire une explosion sur le Krakatoa, encore une fois, pour à peu près exploser à la même époque, dans ce 18e siècle.
Oui, l'oiseau, là.
Oui. Non, le volcan. Non, l'oiseau, c'est le Krakatoas.
C'est le Krakatoas.
Oui, c'est le Krakatoas, voilà.
Parce que j'ai réalisé beaucoup d'explosions. Hein,
mais le gouvernement indonésien n'était pas d'accord.
Afin de défendre des poules. Mais dans... c'était en freelance.
Oui.
Non, mais d'où l'intérêt de faire ces explosions dans la forêt de la mer de Banda, puisque là, vous avez un terrain propice à ce genre de choses, puisque c'est très, très grand. Hein. Là, vous êtes à vue d'œil, vous avez combien là, d'hectares vous avez à disposition? Vous avez 2000 hectares, 3000 hectares, quelque chose comme ça, hein. On va dire
c'est
ça.
C'est pas un problème d'hectares, en fait. Hein. C'est pas un problème d'hectare, c'est surtout un problème de production.
Non, c'est un problème d'hectare, parce qu'il a fallu déplacer certaines populations, leur faire comprendre dans leur langage qu'effectivement, vous avez racheté le terrain pour extraire à la fois ce sulfure de potassium. Et je lis le dossier de Prog, de Disquette Prog. Hein, je lis la fiche technique.
C'est une erreur du stagiaire. C'est une licence accordée par l'État.
Ce n'est pas la...
C'est une erreur stagiaire.
D'accord, c'est une
très, très important. Ce qui est noté, très important, laissez-moi parler, ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas de thunes.
Voilà.
Et oui, à cause de ça, au départ, on voulait faire une explosion filmée par 19 caméras, mais vu qu'on n'a pas de thunes, on va falloir faire 19 explosions.
Est-ce que vous n'avez pas peur que ce projet finisse de la même manière que les annales de l'espace-temps, quoi. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça se finisse de la même manière? Parce qu'on sait très bien comment ça s'est terminé. Les annales de l'espace-temps, ça a vrillé.
Imaginez 19 explosions au même endroit.
Il en a perdu sa femme.
Visuel, parce que
Mario
Abdoulaye. Si ça change de visuel, le film est foutu. Si ça change de visuel, le film est foutu.
Mais alors.
Le film est.
Non, mais vous êtes partisan de faire le film en monochrome. Alors, ce que, par contre, Stanislas Rivonchel, vous avez dit monochrome.
J'ai marqué en monochromé. Monochromé.
Oui, non, mais bon. Quand on lit la description que vous en faites sur ces 14 pages, vous décrivez très précisément la technique par le cyanotype d'impression de la forme dans ce qu'elle apparaît comme étant identifiée.
Non mais
moi je lis ce que vous avez écrit.
Et le film, que ce qui est important. Que ce qui est important.
Ah.
Voilà. Ouais, mais alors, comment...
Demandez au producteur.
Comment
Abdoul.
Comment on le sait?
Oui, non, c'est... Ici, c'est Mario. Oui, il y a effectivement une partie du budget explosion qui est intégrée et qui fait partie, bon, bah, j'allais dire, du film, mais à la fois des attentes des spectateurs, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a une partie, il y a un rôle.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va raconter. Mais on
si, on est quand même au 19e, avec des grands films d'époque. On a ma fille qui interprète le rôle principal, c'est-à-dire qu'elle est costumée, bien sûr. Elle est forcément en train de... Tiens, merci, un sucre. Merci. Voilà. Et une cuillère.
On a le chef opérateur qui a eu une insuffisance rénale la semaine dernière. Ça va être génial.
Il faut s'hydrater, il faut boire.
On t'appellera.
Non, je veux dire pour les images, quoi.
Mais Stanislas...
de ses positions...
On est aussi sur Stanislas, on est aussi sur de la caméra de surveillance, c'est-à-dire qu'on a une image en, si vous voulez, en basse résolution, mais qui permet là d'avoir des choses qui définissent un petit peu un cadre visuel et une esthétique particulière propre.
Ah oui, bien sûr.
Oh.
Voulu, voulu.
Est-ce que je peux me permettre de lire justement un des passages de la note d'intention de Stanislas Rivonchel? Vous avez écrit ceci, donc vous avez défendu, vous, ce projet de monochramé, vous l'avez défendu corps et âme, avant d'être envoyé en mer de là-bas. Vous avez dit, l'explosion monochromée représente le changement et le mouvement d'après la métaphysique de l'univers bloc, si et seulement si les événements contenus dans ce rapport entre le changement et l'immuable forment une région de l'espace dans laquelle la raison n'a plus lieu d'être. La dynamique, pourtant incorrecte dans la plupart des modèles cinématographiques, la dynamique, elle reprendrait la métaphysique des événements pour en exprimer la substantifique moelle. Mais c'est quoi cette substantifique moelle, justement ?
Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Tout ce que vous avez dit là,
le fond
c'est
de la chose.
Exactement, je l'ai mis dans le livre, mais c'est le mail que j'ai envoyé à la production. Et sans cette condition-là, je ne fais pas le film.
Moi, bon, c'est quelque chose qui...
C'est une condition sine qua non voilà. de ce qui est...
Mais apparemment, vous n'avez pas été compris, quoi.
De ce que doit être l'histoire.
La métaphysique de l'univers bloc, mais quoi, finalement?
Oui.
On
s'auto-place dans un décalage interne à 2 mètres de notre réalité sur la gauche.
D'accord.
Donc il y a oui, un décalage.
Voilà. Et je lis le mail, la réponse de Mario Abdoul, la réponse de Mario Abdoulalevi. Vous envoyez ce mail le fleuve. Et Mario Abdoulalevi vous répond OK, mais quid du défi de l'incommensurabilité ? Comment on fait pour concilier des choses qui ne peuvent pas être à un endroit et à 2 mètres à côté ? C'est ça le un objet qui fait moins de 2 mètres. Comment
pas,
on fait ?
Pas
comment on fait ?
Non.
Je ne sais pas comment vous avez eu écho de cet échange de messages, mais
si vous n'êtes pas à 2 mètres à gauche.
Voilà,
de la
voilà, parce que alors.
C'est ça, oui. Et là, je rejoins Stanislas. Comment faire ce type d'explosion spectaculaire qui plus est, sans obtenir ce décalage
mais
2 mètres à gauche.
La technique un peu.
Les gens déplacement, qui nous déplacement latéral.
Pas
des, c'est
ne sont
aussi
pas des simple.
Pyrotechniciens.
Il faut,
c'est vrai,
il faut nous
mais
expliquer.
On demande un déplacement
si
latéral.
Vous êtes à plus de 2 mètres
sur la gauche.
Vous n'avez pas le bras assez long pour allumer la mèche.
Voilà, et si vous êtes à moins de 2 mètres,
si
vous risquez.
Moins de
voilà.
Mètres, vous êtes trop exposé à l'explosion.
Pourtant, dans Opération Nabab, vous l'avez fait. Vous
alors,
avez fait un travelling
oui,
de 57 cm.
Il faut savoir tirer parti de nos erreurs.
Oui, mais vous l'avez fait dans Opération
oui,
Nabab.
Oui, mais ce n'était pas les mêmes conditions. Pas, la même expérience,
non.
J'ai pris une moto et j'ai foncé dans une botte de foin enflammée.
Voilà. Oui, mais le principe est là.
Les risques du métier, tout ça a été.
Calculé.
En tout cas, on s'est un peu tous remis.
À l'époque, bon.
C'est voilà. Budgété.
Vous avez demandé de l'argent à la région, vous avez eu les moyens, vous avez eu un spécialiste qui est venu.
Mm-hmm.
Il était venu. C'était...
Non, pas à l'époque. Voilà. Là, il faut mettre le paquet.
C'était le chef opérateur de claquage à Chibronville qui avait été reconnu quand même pour cette magnifique scène en plan séquence dans le cimetière communal.
Oui, 1857.
Voilà,
avec
donc
un focus,
c'était quand même.
Il
s'appelle Mertens Pichauvel.
Oui, ben voilà.
Oui.
Le scénariste de ce film. Demandez-lui. Il n'est pas. Vous ne pouvez pas l'avoir en ligne, là.
Mais c'est-à-dire que là, les locaux de
Disquette
Prog.
Non, mais les locaux de Disquette Prog sont fermés à cette heure-ci. On a privatisé un petit peu.
On est dans le salon lounge, là, actuellement. Donc, on a la machine à bulles à côté. On a ici le percolateur. Et il y a la petite ventilation. De temps en temps, je le vois, il va fumer là-bas. Dans la petite salle qui est prévue à cet effet, il y a un flux laminaire qui vient aromatiser la pièce à base d'essence de bois de tonka.
Là, on regarde le simulateur de mirvage.
Voilà, simulateur de mirvage ici. C'est magnifique. C'est dommage que vous ne puissiez pas être là, vous qui êtes dans la mer de Banda.
Oui, c'est un appareil très curieux hein, qui fonctionne avec des gants de toilette. C'est assez marrant. C'est un simulateur de mirvage de très bonne facture qui a été réalisé par les Indiens des îles là, qui environnent la mer. C'est à base de poissons. Hein. Les boutons sont faits avec des arêtes.
À base de loup.
On peut changer l'impédance. C'est sympa.
C'est possible.
50 ohms, 150 ohms.
Ah oui, c'est.
C'est ça. Voilà.
Ouais, mais socialement, qu'est-ce que ça implique ?
N'importe quel personnage dans un film, on peut le remirver. C'est un peu adapté à tout ce qui se fait dans le cinéma. Hein. De toute façon, même les gens qui font la cuisine peuvent passer par cette machine.
Mais nous, on est
pour
bien
donner
là. En tout cas, nous, on est bien. Parce que
racisme à leur facture.
Ça, et puis, ça fait des formes. Ça fait des formes un petit peu.
Alors, l'ostracisme dans l'image, c'est un truc aussi qui distingue, qui identifie un petit peu les travaux de Disquette Prog. Merci, Stanislas.
Oui, merci.
Mais c'est avec tout bien, tout honneur que j'aimerais aussi vous parler de certains aspects du dernier film qui avait été écrit dans le making-of du film. Qui reprenait sur l'écriture du scénario et l'histoire de l'écriture du scénario. Personne n'en a jamais parlé, personne n'en a eu jamais
cru. C'est-à-dire, attendez.
Et j'aimerais qu'on en parle.
Ouais, mais justement, parce que vous faites que nous vous parler de vos problèmes d'argent là. Alors allez-y. Donnez-nous votre plan en 3 parties sur le sujet. Allez.
Il y a 3 grandes classes de biplans qui
Stanislas Rivonchel.
Monoclavés. Donc, qui sont des plaques de Peyer associées à des tubes digestifs créatifs qui sont des sous-ensembles qui mesurent plus grand que la muqueuse de l'estomac grêle.
Dans le sens de la longueur. Hein.
Incroyable. C'est ça. Si on le plaquait sur un mur,
mi bout à bout,
par exemple, avec les petites infrastructures. on pourrait faire un cycle d'induction sur de l'acide rétinique pendant 20 à 40 heures par semaine.
Ça fait office d'antenne un peu.
C'est ça. On a des espèces de tissus folliculeux qui sont des tissus auxiliaires qui jouent leur rôle dans des maladies qui n'ont pas eu vraiment de comment dire,
le vent en poupe
de motif. De motif d'être. C'est-à-dire que vous avez une maladie, vous ne savez pas pourquoi d'où elle vient et vous ne savez pas ce que c'est et personne ne sait ce que c'est. Et de toute façon, tout le monde s'en fout complètement. C'est ce genre de maladie, voilà, immunoglobuline.
Ça n'empêche pas de réutiliser la machinerie cellulaire à destination de l'homéostasie afin d'en faire une chose en soi qui puisse être récupérée afin d'en utiliser les produits sans qu'on sache d'où ça vient, finalement.
Oui, d'autant qu'il s'agit souvent de travaux connexes.
Oui.
Ben oui, mais attendez, mais si vous ne filmez pas avec des indices de réfraction qui sont des dioptres...
C'est prévu, mais bon, voilà.
On ne va pas rentrer peut-être dans des détails comme ça. On va pas aller là-bas.
Mais c'est prévu.
Mais attendez, mais l'optique géométrique...
Oui, mais si on va sur ce terrain, et ça nous oblige à aller sur tout ce qui est ondulatoire.
Voilà.
Franchement, les gars, vous me faites venir. Allez, vous êtes en train de parler technique. On va parler d'un scénario.
Attendez, tu vas voir. Vous n'êtes pas là pour décider de ce qui est important ou pas important.
Boss.
L'histoire, elle est là. Stanislas,
je note là.
On peut résumer en deux mots l'histoire. Là, on a notre sténo qui est en train de tapoter sur son clavier. Il faut qu'on ait un scénar.
J'ai pas grand chose là. J'ai vos notes tout à l'heure.
Alors, je vous l'explique.
Claquage nocturne.
Vous n'arrivez pas tous en même temps. Quoi.
On va mettre dans une bouloire des poules.
Ouais. Bon.
Ça va nous donner une vue d'artiste de l'ensemble de la structure du film. D'accord.
Dans un placard emmitouflé.
Exactement.
Dans sa robe de chambre. Voilà.
Une poule. Le scénariste qui va écrire l'histoire. Il sera emmitouflé dans un placard.
Dans une robe de chambre, un scénariste.
Attendez, parce que ne me prenez pas mon micro, vous. Fini.
Ok, un scénariste. Je suis là. Stanislas, je te suis. Vas-y.
Vous n'êtes pas censé prendre la parole.
Alors, si vous êtes scénariste, vous allez travailler pour nous et on va commencer tout de suite. Voilà. D'accord ? Alors, essayez de d'inventer l'histoire ou une explosion à la fin. Voilà.
Ok. Explosion à la fin.
Allez-y.
Là, un petit peu d'eau peut-être inventer pour vous rafraîchir.
Explosion à la fin. Par exemple, je sais pas, moi, il y a un mec qui marche dans la rue.
Ou sur une plage. Sur une plage. Non, dans la montagne.
Pourquoi pas ? Sur une plage ?
Ou sur une plateforme, mais dans la montagne.
Mais dans un lac.
Sur le plan d'une plage.
D'accord.
Un lac d'altitude.
Super. Dans la montagne.
Voilà, un lac d'altitude.
Sous l'eau.
Dans un récif corallien.
Sous l'eau, à lac d'altitude, dans la montagne.
Ouais. Voilà, on devine au loin la majesté des vallées d'autrefois.
Génial. Voilà, on a le soleil qui brille à l'envers.
Tout à fait, puisqu'on est sous l'eau.
C'est possible avec les effets spéciaux.
Oui, il débrille, quoi.
Allez, le soleil à l'envers.
Ouais, mais.
Est-ce que c'est pas le moment où on passe en négatif ?
Non, mais ce serait sympa, quoi.
Oui, non, parce qu'en fait, il y aura un décalage.
Fais-nous une histoire avec une explosion à la fin, voilà. Et dans un lac de montagne sous l'eau.
Voilà.
Avec le soleil qui brille à l'envers.
Donc, et là, il faut qu'on fasse rentrer un petit peu de l'humain, là. Il faut qu'on ait nos acteurs.
Allez, on fait rentrer de l'humain. Moi, je suis d'accord.
C'est le bon moment, là. On a planté le décor.
Allez.
Voilà.
Le scénariste, il est où ?
Alors, il y a Mimine.
Allô ?
Stanislas ?
Le scénariste.
Le scénariste, c'est nous tous.
C'est un brainstorm, Stanislas.
Il disait, ouais, je suis scénariste.
Il est sténographe. La différence entre un sténographe et un scénariste, c'est que le sténographe tapote sur son clavier pour noter absolument tout ce qui est dit de nous-mêmes, qui sommes finalement les scénaristes.
Est-ce qu'on
ne
pourrait pas avoir une idée du sténographe qui n'était pas scénariste comme ça, on le
Si, bien sûr, il est capable d'avoir des idées aussi.
Vous avez une idée, vous, le sténographe ?
On peut prendre en général.
Ouais, je vais rédiger un petit truc, là.
Avec une explosion ?
C'est quoi ton idée ? Vas-y.
Alors, d'après vos notes, flibustier scénariste se trouve sur une plage à la montagne, près d'un lac.
C'est un montage inversé, comme le soleil ?
Ensuite, une vallée majestueuse se dérobe et se dévrille sous ses yeux. On a alors un plan séquence sous-marin de 19 explosions, suivi des éclaboussures.
Toujours en plein jour, avec le soleil à l'envers.
Vous avez l'intention d'utiliser un rover lunaire, je crois, qui serait au fond et qui filmerait tout en dessous.
Voilà, avec des systèmes de miroirs sur une grande surface.
Un kaléidoscope, un peu.
Nota Bene.
Un
rover
lunaire plat.
Ça va, Oui, mais alors, comment est-ce que vous comptez introduire une tension dialectique dans cette histoire-là entre le bien et le mal ?
Il manque un peu d'humain, là, par contre, hein, parce qu'en termes de personnages, on est un peu léger, je trouve.
On y est arrivé.
C'est peut-être l'occasion, justement, d'en parler.
Voilà, alors allez-y.
Donc, il est dans sa robe de chambre. Très bien. D'accord.
Mimine arrive.
Le cacatoès, il fait quoi ? Il
veut quoi, lui ? Non, mais c'est ça, qu'est-ce qu'il veut ?
Et surtout, elle tricote. Le cacatoès n'arrive
qu'à pas. C'est quoi son intention ?
On n'a plus de caméra.
Il faut une intention pour avoir une histoire, sinon il se passe rien.
Il peut même se passer plusieurs choses en même temps en introduction.
Alors, okay. On peut faire un fondu enchaîné.
Henri, donnez-nous l'intention. On vous la laisse. Allez-y.
Un parapluie.
L'objectif, c'est de passer un bon moment.
Ah, ça c'était le.
Voilà, c'est quelqu'un qui se lève et qui se dit.
Bon moment.
Ce soir, je me mets bien.
D'accord, ça c'est quoi ? C'est le milieu du film ?
Ouais, c'est, je crois que c'est dès le départ. Il faut, faut saisir le spectateur d'entrée.
C'est quelqu'un qui se lève, c'est son premier jour de la retraite, ça y est.
Okay, il va bosser.
Il a investi toute sa vie pour obtenir ce petit pavillon au bord de ce lac d'altitude à la montagne.
Par exemple, mais sous l'eau, mais sous l'eau, dans un lac.
Il est dans son bâtiscaf, là, il a son tuyau, tout ça. Ça y est, quoi, il se dit.
Sans tuyau, qu'est-ce que vous entendez par sans tuyau ?
Il a son tuyau, il a eu
un
des tuyaux.
De non, bâtiscaf, voilà, un tuyau de bâtiscaf classique.
Il est bien, il dit, ah, je vais me mettre bien là.
Par 30 mètres de fond dans le lac, voilà.
Alors, 30 mètres de fond dans le lac, mais à l'envers, c'est-à-dire que tout le monde respire.
Oui,
t'es
en bas.
Voilà.
T'es en bas. Voilà. Oui. Donc, descendre.
La petite fille tricote.
Dans les fonds de lac.
On installe un climat, une atmosphère finalement détendue. La petite fille tricote. Ah. Elle ramasse le journal de son grand-père.
Voilà, ainsi par Lazara Toustra. Tout ça, quoi.
Sous l'eau.
On les équipe de petites bouées finalement assez discrètes, voire visibles. Voilà.
Oui, mais des plombs aussi pour les maintenir sur le fond.
Voilà, tout ça à l'aide du cacatoès.
C'est jamais vu au cinéma, une gonzesse, justement. Une gonzesse là, qui tricote sous l'eau. Là.
Et tout ça dans un climat calme, détendu.
Non, mais bien. Quoi.
Avec un cacatoès qui va apporter un peu de sourire et de réconfort. Voilà. Le cacatoès incarne le réconfort. Le cacatoès incarne le réconfort.
Ce qu'il va incarner, c'est le réconfort, il va incarner l'explosion aussi.
Alors, on ne le dit pas tout de suite, c'est une annonce.
De visualité de l'explosion avant qu'on le devine, quoi.
Oui. Et le film va évoluer aussi, l'évolution du personnage du cacatoès.
Justement, il y a une tension qui apparaît. Une
tension métaphysique et symbolique qui va être ajoutée.
On pose d'emblée les données du film.
Voilà.
Ça, c'est la mise en... Voilà, c'est le premier des quatre films de la tétralogie, donc le premier...
Quand on pense que de toute façon la vie, on la finit par la mort, autant que ce soit une explosion, quoi.
Mais attendez.
Mais justement, le mec au début, il veut se mettre bien, quoi.
Ok, il se met bien.
Oui. C'est pour manifester une forme d'individualisme qui grandit dans les sociétés.
On reprend. Donc après,
à l'envers, quoi.
Le plan. Oui, c'est ça. Il descend, il s'en rend pas compte.
Le plan séquence de.
Dans l'eau, vous n'avez ni.
Autour des 19 explosions.
Oui, parce qu'il faut qu'on arrive à l'explosion à la fin.
Laissez synthétiser.
Ok. Le cacatoès apparaît en tricotant.
Voilà.
On a le flibustier qui, après avoir été éclaboussé, rêve d'un bâtiscaf pour explorer le lac. Le cacatoès l'aide à en tricoter un. Alors, la plongée dans le lac, il plonge. Une petite fille apparaît sous l'eau.
Oui.
Elle tricote elle aussi.
Elle apparaît, mais elle était déjà là.
Oui.
Mais en la voyant, elle a peur. Elle a peur. Elle est effrayée et le cacatoès la réconforte avec son aiguille.
C'est ça.
Okay.
C'est ça, son aiguille à tricoter. Ouais.
C'est ça.
Mais on pourrait faire le cacatoès qui partit à la pêche, le cacatoès qui part à la pêche sous l'eau.
Voilà.
Okay.
Voilà, il a pêche.
Harpon,
donc un peu de suspense.
Ouais, est-ce qu'il va revenir avec un bar ? Est-ce qu'il va
sort
revenir
un
avec
harpon,
un loup, etc.
La fille lui dit.
Il
ah bon.
Un harpon.
La fille il tape lui
dit. Le harpon
ah bon.
Là.
Et le voilà, le projectile du harpon par mégarde atteint. Quelque chose qui justifie cette explosion.
Tir accidentel.
Oui, donc une...
Sur une palourde amphibienne.
Alors, un
surplus militaire d'origine allemande.
Avec une étincelle déclenchée par un mégot d'or. Ça, c'est important.
Ah oui, dans un souterrain. Moi, je pense que ça peut apporter un petit peu de. Ça peut contribuer au suspense, ouais. cette ça, histoire ouais. de pêche,
il
mais dans un
souterrain au fond du.
Ouais,
du
dans lac. Un souterrain, il fait la pêche, mais comme ça, ouais. il le découvre.
Mais il voit que c'est pas un puits, quoi. C'est vraiment un souterrain.
Oui, oui, parce que
oui, c'est ouvragé. Oui, oui.
Oui, oui. Bordé de plumes, quelque chose qui l'intrigue et qui l'invite à parcourir le.
Ah, et puis c'est gavé de planches, quoi. Il y a plus de planches.
Voilà.
Plus que jamais, quoi.
Il est à l'intérieur.
Ah, on voit plus rien là.
Non, non.
On voit plus
c'est
rien.
Le noir total.
Mais il avance, coûte que coûte.
Et il sent que là, il est bien. Quoi.
Alors, je crois qu'ils aperçoivent aussi.
Il se met bien coûte que coûte.
Coûte que coûte, voilà, c'est ça.
Ça n'a jamais été aussi bon de toucher le fond, quoi, vraiment.
Oui, ah. Oui,
détermination.
Parce que pourquoi ? Parce que.
Aussi con, ouais.
Et voilà. Et puis, il y a une méga structure qui est forcément la promesse de ce souterrain, de ce tunnel.
Mais il a l'impression que tout est construit.
Ancienne.
Sur une structure paléolithique très ancienne.
Surgit à l'envers.
Brah. Comme ça, c'est le bruit. Le comme ça.
Casse tout, quoi. Casse tout, quoi.
C'est whack a mole, quoi. Ça sort là. Vra.
Et alors, comment faire le lien avec cette scène d'introduction spectaculaire? Comment faire le lien avec la scène d'introduction?
Mais c'est facile. On a le mec, il est chez lui.
Ouais.
Il commence à préparer du thé.
Ouais.
Il a sa femme qui rentre du boulot.
Tranquille.
Hein, il lui propose du thé, elle ne veut pas. Elle lui dit j'ai mal à la tête, je vais me coucher. Et il dit bon maman je vais me faire des kilomètres et il s'en va. Il prend sa bagnole et prend son.
Comme n'importe qui l'aurait fait à sa place.
Non, non, non. Et lui, sauf que ce qu'il fait, c'est qu'il laisse partir la bagnole et il se planque dans le jardin.
Ah ouais, bien vu, la surprise.
Et à l'envers, quoi.
Oui.
À l'envers.
De surprise.
Toujours, on est déjà à l'envers ou pas là, parce que je comprends plus. À quel moment on passe à l'envers?
Le soleil est toujours à l'envers.
Ah, donc dès le début, en fait, non, c'est ça l'histoire. Pas, c'est que depuis le début, tout est à l'envers,
oui,
en fait.
Tout à fait.
Donc il croit aller vers le fond, mais il va vers le haut, quoi, en fait, finalement.
Quelque part, oui, oui. C'est...
Il brille à l'intérieur de
ah, ouais.
Du soleil. Tu vois.
Et voilà, et là on apporte à la fois une morale et à la fois une
oui,
question.
Parce que, en se disant, ouais, je vais me mettre bien, là, putain. En fait, il fait, comme c'est à l'envers, en fait, c'est l'inverse. Il va se mettre mal.
Voilà, parce qu'il
ne s'en rend pas compte.
C'est la vanité de l'homme.
C'est un voyage vers le fond du fond.
Ah, ouais, c'est l'hybris, quoi. L'hybris, vraiment ça. Ouais.
La vanité de l'homme, c'est quand on s'aperçoit que vu que le soleil brille à l'envers, bah, quand on sait qu'à l'intérieur du soleil, il fait 3 millions de degrés, et que bah, s'il brille à l'envers, bah, sur Terre, il fait 3 millions de degrés. Donc c'est là où.
Et ouais, ça se tient.
Une inversion.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne se pose pas la question, justement. Parce qu'il est aveuglé. Il est aveuglé.
C'est merguez, quoi.
Bon, il vous reste 3 minutes là pour conclure le.
Oui, il nous faut
après,
cette explosion. Donc,
après, on a, plus
on
le
a un
live,
projectile,
là.
On a le harpon. On a... Qui
y
tient
y a la
le
fille
harpon
qui tricote.
Elle tricote, elle est réconfortée par une aiguille
elle
à tricoter.
Elle tricote une écharpe.
Ah, peut-être que l'aiguille à tricoter peut devenir à son tour le projectile du harpon.
Si le harpon se prend dans le fil.
On écrive le film, qu'on le fasse et qu'après on le montre aux auditeurs parce que là, faut dire au revoir là. Alors, je vous dis au revoir à tous, je vous dis merci. Merci de m'avoir invité dans cette émission. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler plus
là,
souvent.
Vous allez partir sur votre shift, c'est ça, en cuisine?
Il n'y a pas de problème. Bah, je vais attendre les thunes et puis je vais aller éplucher mes patates.
Oui, mais là, ça va venir. Là. Mario Abdullah Lévy a confirmé. Là.
Oui,
il
oui,
nous a,
oui,
il
oui,
nous a
oui.
montré.
On laisse passer le week-end histoire de foutre la paix aux banquiers, mais on est dessus.
Et on lui a envoyé le code. Et le code de confirmation. On va vous envoyer le code à 6 chiffres qu'il va falloir rentrer pour confirmer que c'est bien vous.
En tout cas, c'est un grand merci pour l'avancée.
Mais oui,
dans
bravo, Stanislas.
Oui, mais il faut que vous rentriez le code dans l'application. Sinon, vous n'aurez pas votre argent.
Merci Stanislas.
Écoutez,
rapidement, parce qu'on n'a pas le temps là, de régler les problèmes techniques, mais il va vous envoyer un code que vous allez rentrer dans votre application. L'application va vous donner un CAPTCHA. Vous allez devoir sélectionner tous les camions. Ensuite, vous allez cliquer sur « Je ne suis pas un robot », ce qui va vous envoyer sur une chaîne musicale. Vous allez devoir trouver le titre des 7 morceaux qui vous sont passés. Ensuite, une fois que vous aurez trouvé le titre des morceaux, là, on va vous demander de compléter la dernière pièce du puzzle et de rentrer les dernières décimales de pi. Et là, vous serez viré bancairement.
Oui. Ouais, tu vois, c'est
simple.
C'est l'algorithme, hein, c'est la sécurité informatique.
C'est un truc que ça va se faire. Ça va se faire. Merci Stanislas.
Ouais, ouais.
Un grand merci.
Bah de rien. Je reste là.
Oui.
Boss.
Oui.
Prends l'air du temps.
Non, mais ça va se faire là.
Absorbe.
Et puis Mario Abdullah Lévy attend vos comptes rendus quand même. Qu'est-ce qui vous arrive?
Alors
ça lui arrive deux fois, oui. C'est pour ça qu'il est rarement engagé, mais Il a des petites crises.
Comme Riviera.
Une forme d'épilepsie.
Bon, comment est-ce que vous souhaitez conclure cette
histoire ? Qu'est-ce qu'on peut retenir là, voilà, de ce qui a été écrit ? On valide directement ? Qu'est-ce que... On a un sténographe à disposition. Ah, Stanislas n'est pas encore parti. Qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce qu'on valide cette histoire d'explosion ? Je crois qu'il manque un petit peu de personnel. Alors, il y a trois films, donc il faut qu'on ait un petit peu plus de personnages, peut-être, dans cette histoire.
Vous voulez d'abord peut-être aller voir des sociétés de qui vous donnent des figurants, des
non,
gens
je pense
qui,
tout
qui...
simplement au Kakatoès. Oui. La durée de vie d'un Kakatoès, sur trois films, il faut qu'on se débrouille pour que le tournage...
Faut qu'on speed, à peu
près. Donc là, vous donnez le go.
Si c'est le même Kakatoès, il faut qu'on ait tourné les trois films sur une semaine ou deux, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc là, c'est parti, quoi. Là, le go est lancé.
Alors, voilà. Bon, il nous faut un flibustier pour lundi, quoi, du coup.
Bah alors, vous pouvez faire une annonce, là, tout de suite, en direct, si vous cherchez, allez-y.
Oui, alors on cherche un acteur ou une actrice qui pourrait incarner le flibustier. On a besoin d'un...
Des gens sur place.
C'est ça, voilà, tout ce qui... Voilà, j'allais demander s'il y a des gens qui pilotent, par exemple.
Tout ce qui se bouge sur pattes.
Voilà, des véhicules lunaires, d'autres qui maîtrisent un petit peu. Ouais, tout ce qui peut se présenter, qui bricole un petit peu.
Tout type de transport alternatif.
Donc, ces gens-là.
Quelqu'un peut appeler la société Rover pour avoir un Rover.
Voilà, et alors, si vous vous êtes déjà regardé dans une glace, vous pouvez aussi nous appeler.
Donc, voilà, si vous êtes intéressé, vous appelez ou vous vous pointez lundi matin, donc à 8h.
C'est possible aussi de faire comme ça.
À Disquette Prod directement à Gigny-Flamère.
Ouais, ouais.
De la glace qu'on mange.
Lieu de tournage. Non, ah ben non.
Directement sur place dans la mer de Banda.
Ah, si vous êtes regardé dans une glace, vous comprendrez ce que je suis en train de dire.
Bon, écoutez, on n'a plus le temps pour ça. De toute façon, là, on va devoir arrêter ça. Mais merci beaucoup de nous avoir invités parmi vous dans les studios.
C'était un plaisir.
C'était une riche idée.
De Disquette Prog. On a vu comment ça se passe, le processus créatif.
C'est un petit aperçu.
Merci. Ah bah... Merci à la technique, Guy Chablis, tout ça.
Merci, Guy Chablis.
On a une formation là-dessus. Hein. On est des vrais professionnels de toute façon. Donc voilà. Donc voilà. On vous fait confiance, on attend tout de suite, on veut voir ce film, on veut le voir, donc on participera en tant que sponsor secondaire, on sera donc là pour faire la promotion de ce film. Arrêtez avec ça, on n'a pas le temps de toute façon. Bonne soirée à vous, vous êtes sur Radio La Fin du Monde. La prochaine émission, le quatrième jeudi du mois, aura lieu, donc si je ne me trompe pas, 13 plus 14, ça fait 27, jeudi 27. Octobre 2022, de 22h à minuit. Votre prochaine émission.
Très bien. Bah, j'espère pouvoir être là.
Ben, je vous en prie.
Merci.
Radio La Fin du Monde.